Le journal, Estelle Schmitt. Bonjour Estelle.
Bonjour. Leurs problèmes au quotidien, les incivilités, leurs craintes aussi. Les maires invités à se confier, le questionnaire lancé par le Sénat arrive dans les mairies. Reportage dans ce journal. Nouvelle journée de mobilisation en Guadeloupe pour soutenir le personnel du CHU en grève générale depuis près d'un mois. Ils dénoncent la dégradation des soins depuis l'incendie qui a touché l'hôpital en novembre 2017. Toujours sous tension ce matin à Hong Kong, malgré la reprise du trafic aérien, les manifestants pro-démocratie promettent de nouvelles actions. Pékin hausse le ton, les États-Unis appellent au calme. Cap sur New York, à bord d'un voilier zéro carbone, la jeune Greta Thunberg, icône de la lutte contre le réchauffement climatique, part tout à l'heure pour quelques semaines de voyage. L'Assomption, demain, des milliers de pèlerins dans les rues de Lourdes et des bénévoles pour les encadrer, on le verra. Et puis un arbitre français ce soir pour la Super Coupe d'Europe de foot, et c'est une femme, Stéphanie Frappard, une première.
Notre invitée à 8h moins le quart, la journaliste et écrivaine Myriam Leroy, qui publie au Seuil un roman « Les yeux rouges », un roman saisissant qui raconte le harcèlement sur le net.
France Inter. Une quinzaine de questions pour déterminer les risques auxquels sont confrontés les maires dans l'exercice de leurs fonctions. C'est la consultation très politique lancée par le Sénat. Elle commence à arriver dans les mairies, initiative après la mort de Jean Michel, le maire de Signes dans le Var, renversé par un fourgon dont les occupants venaient déverser illégalement des gravats sur un chemin de sa commune. Les élus ont un mois pour répondre au questionnaire. Le maire de Bure-sur-Yvette dans l'Essonne, une ville plutôt calme, l'a rempli hier. Adrien Serrière l'a rencontré.
Jean-François Vigier est engagé en politique depuis près de 30 ans. Et il y a encore quelques années, il n'aurait jamais cru en arriver à la situation actuelle.
Que vous envoyez un questionnaire comme ça aux forces de l'ordre, à des gardiens de prison, voyez, mais à des maires, enfin c'est incroyable. Alors, avez-vous été victime dans le...
L'élu commence à remplir le questionnaire. S'il ne s'est jamais fait frapper, il s'est déjà senti menacé.
Un samedi matin, je vois une voiture qui veut forcer le passage en fait et prendre le sens interdit pour rentrer sur le parking. Donc je l'ai arrêté, je lui ai demandé de baisser la vitre et je lui ai expliqué que j'étais le maire et que ce qu'il faisait était interdit. Et là, je me suis fait traiter de tous les noms d'oiseaux possibles parce qu'il n'en avait rien à faire et que lui, il était pressé qu'il voulait venir se garer.
Il mentionne aussi les injures sur les réseaux sociaux. Son constat des citoyens de plus en plus exigeants et agressifs et qui reconnaissent de moins en moins la légitimité de leurs élus.
Le maire, c'est quand même celui qui est là tous les jours sur le terrain, qui doit régler 15 problèmes totalement différents en l'espace d'une journée, de l'inscription à l'école, à la crèche, au panneau de basket qui déconne, enfin voyez, voilà, il y a tout ça.
Un travail prenant, passionnant, dit Jean-François Vigier, mais dans le contexte actuel, il hésite à se représenter pour un troisième mandat.
Et redonner au maire l'envie de s'engager, c'est notamment le but de la réforme du statut de l'élu local programmée à la rentrée parlementaire. Deux blessés, l'inspection générale de la police nationale, la police des polices, saisie après une course-poursuite et une fusillade avec la police hier soir à Draguignan dans le Var. Deux personnes auraient refusé de se soumettre à un contrôle avant de prendre la fuite. Elles auraient été blessées lors d'un échange de tirs avec les forces de l'ordre. Ils dénoncent la dégradation des soins et des conditions de travail au CHU de Pointe-à-Pitre. Plusieurs milliers de manifestants hier à l'appel d'une dizaine de syndicats guadeloupéens pour soutenir le personnel de l'hôpital en grève générale depuis le 23 juillet dernier. À l'origine de ce mouvement, Yann Gallic, un incendie il y a presque deux ans maintenant.
L'incendie du 28 novembre 2017 avait ravagé les urgences et la maternité du CHU de Pointe-à-Pitre. Depuis, ces services ont été délocalisés dans des locaux temporaires, mais inadaptés selon le personnel soignant. Des bâtiments vétustes avec des fuites d'eau, des plafonds qui partent en lambeaux, de la moisissure sur les murs et du matériel hors d'usage. Confronté à de grosses difficultés budgétaires, le centre hospitalier a accumulé près de 49 millions d'euros de dettes auprès de ses fournisseurs. Leslie Canval est infirmière aux urgences.
Du coup, les fournisseurs, au bout d'un moment, décident de ne plus nous livrer. Ce qui veut dire qu'on peut se retrouver, et ça c'est récurrent, sans couche, pour changer nos patients, sans gants, sans aiguilles, enfin, tous les jours on rencontre des difficultés. À cela se rajoute un manque de médecins, parce qu'après l'incendie, nos médecins sont partis. On a de moins en moins de médecins urgentistes chez nous.
Le dialogue reste tendu entre les grévistes et la direction du CHU. La situation est devenue critique, explique Leslie Canval, d'autant plus que la Guadeloupe est en pleine période cyclonique.
Clairement, nous ne sommes pas en mesure de, s'il y a une catastrophe, de gérer un afflux massif de patients. On ne peut plus continuer dans ces conditions.
L'État vient d'accorder une aide exceptionnelle de 20 millions d'euros au CHU de Guadeloupe, mais selon les syndicats, il en faudrait au moins 30 de plus pour remettre à flot les finances de l'hôpital.
L'INSEE vient de publier le taux de chômage au sens du Bureau international du travail pour le deuxième trimestre 2019. C'est un léger recul de 0,2 points à 8,5%. Analyse dans le journal de 8h avec Fabien Cazot.
Et avec nos invités à 8h20 dans le grand entretien, Gilbert Sett, qui est professeur d'économie à l'université Aix-Marseille, et Stéphane Carcio, qui est chef de la division emploi-revenu de l'OCDE. Estelle Schmitt, une partie du gouvernement italien se retrouve à Gênes aujourd'hui.
Un an après l'écroulement du pont de Gênes qui a fait 43 morts, dont 4 Français, le gouvernement italien toujours en poste, enfin pour le moment, puisque le Sénat a reporté à la semaine prochaine le débat sur la motion de censure. Le calme ce matin à l'aéroport d'Hong Kong. Le trafic a totalement repris. L'activité est normale après 2 jours de perturbations dues aux manifestants pro-démocratie et aux affrontements avec la police. De son côté, Pékin menace toujours d'intervenir, parle ce matin d'actes quasi terroristes et diffuse dans les médias officiels des images de ses troupes qui se massent à la frontière avec la région semi-autonome, crise la plus grave que traverse l'ancienne colonie britannique depuis sa rétrocession à Pékin en 97. Les États-Unis appellent à l'apaisement. Enfin, le président Trump n'adresse aucun avertissement clair aux autorités chinoises, Grégory Phillips.
Hier midi, alors qu'il est au pied de son hélicoptère Marine One et qu'il s'apprête à décoller pour la Pennsylvanie, Donald Trump fait cette très courte déclaration sur ce qui se passe à Hong Kong. Situation difficile, commente le président américain. Nous verrons bien ce qui va se passer. J'espère que ça va aller pour tout le monde, pour la liberté, mais aussi pour la Chine. Et j'espère que personne ne sera tué. L'embarras est palpable. Depuis le début de cette crise, la Maison-Blanche est particulièrement discrète. Début juillet, Donald Trump avait concédé que les manifestants étaient certes en quête de démocratie, mais que Pékin n'avait pas non plus besoin de conseils. Visiblement, l'administration américaine, déjà empêtrée dans de difficiles négociations commerciales avec les Chinois, ne veut pas compromettre le résultat de cette discussion en prenant le risque d'un avertissement trop fort à Pékin. Des ténors du Parti républicain appellent pourtant le président à moins de prudence. Nous, Américains, nous devons soutenir les manifestants pacifiques hongkongais, a dit le sénateur Lindsey Graham. Quant au patron de la diplomatie, Mike Pompeo, il s'active en coulisses. Hier à New York, le secrétaire d'État a rencontré l'un des plus hauts responsables du Parti communiste chinois, sans donner aucun détail sur la teneur de cet entretien. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
L'Opéra de Los Angeles va ouvrir une enquête après une série d'accusations de harcèlement sexuel concernant son directeur général, Placido Domingo. Le ténor espagnol âgé de 78 ans, mis en cause par 9 femmes, les fait remonter parfois à plus de 30 ans. Des sanctions dans l'affaire Epstein, le directeur de la prison new-yorkaise où le financier a été retrouvé mort a été muté à titre temporaire. 2 employés sont suspendus.
Elle met le cap sur New York.
Greta Thunberg quitte tout à l'heure en bateau le port de Plymouth au sud-ouest de l'Angleterre pour se rendre en bateau au sommet de l'ONU sur le climat qui a lieu fin septembre. La Suédoise de 16 ans, égérie de la lutte contre le réchauffement climatique, n'avait jamais navigué. Elle entame un périple de plusieurs semaines à bord d'un voilier, évidemment écolo, Célia Kiré.
Ce géant des mers, le Malizia 2, est équipé de panneaux solaires sur ses coques et de turbines sous-marines qui produisent de l'électricité. Greta Thunberg peut donc dire qu'elle n'émettra pas de CO2 pour sa traversée de l'Atlantique. Et son confort sera simple. Ni douche, ni cuisine, ni frigo. Le but est d'économiser au maximum le besoin d'énergie. À bord de ce voilier de 60 pieds, elle voyage avec le skipper allemand Boris Herrmann, le prince monégasque Pierre Cassiraghi, propriétaire du bateau, sans oublier son père et un réalisateur qui produit un documentaire sur son combat. Ce voyage lui permettra bien sûr de défendre les grèves du vendredi pour le climat. Pour l'équipe Malizia qui lui a proposé de monter à bord, c'est également une vitrine. En revanche, le constructeur allemand BMW, habituellement sponsor de ce voilier, a retiré ses messages publicitaires. Même punition pour la banque EFG. Les critiques de Greta Thunberg avaient en effet soulevé une contradiction entre ce voyage zéro carbone et les sponsors du navire. Plus de logo et plus de polémique donc à ce niveau. Greta peut partir tranquille pour son année sabbatique. Après le sommet des Nations Unies de New York, elle mettra le cap sur le Chili pour participer en décembre à la COP25 de Santiago.
Certains ont également parcouru des kilomètres, parfois venus du monde entier, pour rejoindre Notre-Dame de Lourdes. Période de pèlerinage en cette semaine du 15 août, l'Assomption. 8000 personnes présentes, c'est 15% de plus que l'année dernière. Bénévoles se relaient pour les accueillir et pour certains, c'est une première. Reportage à Clément Paulin.
Laurent et Pauline sont arrivés il y a quelques heures à Lourdes. Quand ils ont découvert le sanctuaire il y a quelques mois pour la première fois, ils en sont tombés amoureux.
Moi, j'ai pu en tout cas ressentir même une paix et on se sent comme à la maison.
On s'est tout simplement senti appelé à revenir ici.
Plutôt que juste de faire bronzette sur la plage, c'est pas trop notre truc.
Près de 4000 hospitaliers bénévoles prennent en charge les pèlerins cette année. Laurent encadre les bains de Lourdes et il est venu sans formation.
Là, on va avoir une formation justement comment porter les personnes de manière à ne pas blesser ou heurter quelqu'un. On accompagne, voilà, on est plutôt des accompagnateurs de personnes malades.
Ce qui a motivé Pauline, c'est aussi le documentaire Lourdes, sorti en mai dernier. Elle y a entendu le témoignage de pèlerins et s'est investie pour eux.
Il y a un petit garçon malade avec son papa, il y a des personnes qui se prostituent et qui essayent de s'en sortir, qui viennent. De voir toutes ces histoires de personnes en souffrance et de voir qu'ils trouvent une jouvence ici en venant à Lourdes, c'est important de pouvoir être une petite partie de cet engrenage qui fait que les gens vont vers plus de joie.
Et en plus d'apporter son aide, Pauline veut cultiver l'humilité et la patience. Pauline qui le dit, elle a la certitude que pour recevoir, il faut beaucoup donner.
Un reportage à retrouver en longueur sur franceinter.fr.
Voilà, une première fois à Lourdes et puis beaucoup de premières fois Estelle ce soir à Istanbul.
Oui, pour la Super Coupe d'Europe de football. Vous savez, le vainqueur de la Ligue des Champions contre celui de la Ligue Europa. D'abord, c'est la première fois qu'elle oppose deux clubs anglais, Liverpool et Chelsea. Du nouveau également concernant l'arbitre, puisque c'est la Française Stéphanie Frappard qui a été choisie, Thomas Coignac.
Et c'est la première fois qu'une femme dirigera ce match, l'un des plus prestigieux du football européen et mondial. À 35 ans, Stéphanie Frappard rejoint le Gotha mondial de l'arbitrage. Et lors de la conférence de presse officielle de l'UEFA, elle ne manifestait en anglais aucune appréhension.
Bien sûr, ma vie a changé parce que je suis plus connue maintenant dans le monde entier. J'ai également été désignée pour officier en Ligue 1 en France. Je connais donc le sentiment, je connais la stratégie et je connais aussi mes émotions. Je sais comment les garder et je sais aussi combien je me suis entraînée pour ça. Ce n'est pas le premier rendez-vous pour moi, alors je sais ce que cela signifie.
L'entraîneur de Chelsea, Frank Lampard, s'est dit ravi de participer à cette première, mais le plus beau compliment est peut-être venu du défenseur néerlandais de Liverpool, Virgil van Dijk, qui trouve simplement normal qu'une très bonne arbitre soit aussi flée ce soir.
Parler du genre de l'arbitre n'est pas pertinent. Si la qualité est là, et elle est là, puisqu'elle a été choisie pour arbitrer ce match, alors ça n'a pas d'importance.
Et sur le terrain, il y aura deux autres femmes pour assister Stéphanie Frappard, dont la française Manuela Nicolosi.
Liverpool-Chelsea Super Coupe d'Europe, c'est à 21h à Istanbul, Pierre.
C'était le journal d'Estelle Schmitt.